Radio Okapi. Le journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi.
Un appel de l'Église et du monde entier à l'amour, la paix et l'unité, c'est celui lancé hier dimanche à Rome par le pape Léon XIV. C'était à l'occasion de la grande messe solennelle inaugurale de son pontificat. Dans ce journal, vous suivrez un extrait de l'adresse du souverain pontife devant une foule de fidèles et d'invités du monde entier. Épidémie de choléra dans la ville de Kalemie au Tanganyika. Radio Okapi vous propose à partir de ce matin une série de reportages sur cette maladie qui sévit depuis des années dans les zones de santé de Niemba et de Kalemie. Plusieurs aspects expliquent la permanence de cette maladie des mains sales qui fait de nombreuses victimes. L'invité de ce journal, c'est Dr Sidi Ould Ta, ancien président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. De nationalité mauritanienne, il est pressenti pour prendre les rênes de la Banque africaine de développement BAD. Bonjour à tous. Le pape Léon XIV appelle l'Église ainsi que le monde entier à l'amour, à l'unité et à la paix, à l'image du Christ. Propos tenu hier dimanche à l'occasion de la grande messe solennelle inaugurale de son pontificat, messe dite à la place Saint-Pierre de Rome. Selon le Vatican, des dizaines de milliers de fidèles et 200 délégations du monde entier ont pris part à cette célébration eucharistique. Le pape a tracé une route à parcourir ensemble avec tous les chrétiens, toutes les religions et toutes les personnes de bonne volonté pour construire la paix. On écoute un extrait de l'homélie du pape Léon XIV que nous propose Alain Hirong.
Comme l'affirme saint Augustin, l'Église est constituée de tous ceux qui sont en accord avec leurs frères et qui aiment leurs prochains. Cela, frères et sœurs, je voudrais que ce soit notre premier grand désir, une Église unie, signe d'unité et de communion qui deviennent ferments pour un monde réconcilié. À notre époque, nous voyons encore trop de discordes, trop de blessures causées par la haine, la violence, les préjugés, la peur de l'autre, par un paradigme économique qui exploite les ressources de la terre et marginalise les plus pauvres. Et nous voulons être, au cœur de cette pâte, un petit levain d'unité, de communion, de fraternité. Nous voulons dire au monde avec humilité et joie, « Regardez le Christ, approchez-vous de lui, accueillez sa parole qui illumine et console. » Écoutez sa proposition d'amour pour devenir son unique famille, dans l'unique Christ. Nous sommes un.
De leur côté, les cardinaux électeurs africains affirment attendre de Léon XIV la paix, l'évangélisation, l'unité de l'Église ou encore la synodalité. Ils l'ont exprimé au souverain pontife avant la messe inaugurale. D'autres détails dans ce condensé de Blaise Makassi, rendu par Jacques-Yves Molima.
Bien avant cette messe d'inauguration du pontificat du pape Léon XIV, les cardinaux électeurs africains lui ont souhaité un fructueux pontificat. Pour ces cardinaux, la paix, l'évangélisation, l'unité de l'Église ou encore la synodalité sont les principaux défis auxquels devra faire face le nouveau souverain pontife âgé de 69 ans. Il plaide pour l'implication du pape pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan, au Sud-Soudan et au Sahel. Le cardinal Fridolin Mbongo, archevêque de Kinshasa, est l'un des cardinaux électeurs, a pris part à cette célébration eucharistique. Rappelons que le nouveau pasteur a été élu, vous le savez, pape le jeudi 8 mai dernier par les 133 cardinaux électeurs lors du conclave organisé après le décès le 21 avril 2025 du pape François.
Tous engageons-nous pour la paix et le bien vivre ensemble. C'est ce qui ressort de la 62e assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko qui s'est déroulée du 12 au 15 mai à Kinshasa. Dans le compte-rendu de ces assises rendues publiques vendredi, les évêques disent apprécier à leur juste valeur les efforts diplomatiques déployés par le président de la République ainsi que les moyens consentis par le gouvernement pour l'unité et la stabilité du pays. C'était lors d'une conférence de presse vendredi au centre interdiocésain. Cependant, la Synco se dit préoccupée par le fait que cette crise ne fait que s'accentuer à la grande désolation du peuple congolais. À l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités du pays. On écoute Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Synco, au micro d'Étienne Lissoumbo.
Nous recommandons au président de la République de faire confiance à vos pères spirituels en facilitant la mise en œuvre de cette initiative. L'histoire retiendra que c'est sous votre impulsion que les Congolais sont parvenus à un consensus sur une meilleure gouvernance du pays. Aux acteurs politiques, de mettre de côté vos luttes pour la conquête ou la conservation du pouvoir afin de réfléchir objectivement sur un projet de société qui va ramener la paix et fonder le bien vivre ensemble entre les Congolais. Nous vous encourageons à développer le dialogue comme mode de résolution des conflits. Aux organisations de la société civile, aux chercheurs et toutes les autres dynamiques nationales et communautaires, de vous engager à contribuer par vos recherches et analyses à la production de feuilles de route fiables et viables au peuple congolais.
Sur le plan diplomatique, sachez qu'une réunion s'est tenue le samedi à Lomé au Togo entre le médiateur de l'Union africaine, Fornia Singbe, également président du Conseil de la République togolaise, et le panel des facilitateurs de l'Union africaine. Selon un communiqué de la présidence du Conseil de la République togolaise, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts en faveur de la paix dans l'est de la RDC et du renforcement des relations entre la RDC et le Rwanda. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Le communiqué précise que les échanges ont porté sur la fusion des processus de Nairobi et de Luanda. Le panel des facilitateurs composé notamment des anciens chefs d'État Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta, Mogwetsi Masisi, Catherine Samba Panza et Saleh Wok Zewde a discuté des mécanismes de médiation africaine. Les participants ont souligné la nécessité de coordonner les actions du médiateur et des facilitateurs dans un cadre intégré et plaidé pour une collaboration renforcée avec l'EAC, la SADC ainsi que des partenaires comme le Qatar et les États-Unis. Enfin, le panel a salué les récentes marques de bonne volonté des parties impliquées dans le conflit en RDC.
Pendant ce temps, sur le terrain au Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, l'organisation Médecins sans frontières MSF condamne le fait que les combats entre le M23 et le Wazalendo à Bambo se soient déroulés dans une zone peuplée et à proximité des structures sanitaires. En effet, des tirs ont même touché un service hospitalier. Cette organisation humanitaire, dans une récente publication, appelle les parties au conflit à garantir la protection des civils et des humanitaires. Selon MSF, la proximité et l'intensité des combats avec utilisation d'armes lourdes ont contraint les équipes MSF à se mettre à l'abri, ce qui limite leur capacité à délivrer des soins vitaux. Le 15 mai dernier, en effet, les combats intenses ont eu lieu autour et dans la localité de Bambo, causant la mort de 7 personnes et faisant 21 blessés, dont 6 graves. Comme annoncé dans le sommaire, nous entamons notre série de reportages sur l'épidémie de choléra dans la ville de Kalemie au Tanganyika. Chaque année, le choléra est signalé dans les zones de santé de Niemba et de Kalemie. Plusieurs aspects expliquent la permanence de cette maladie des mains sales qui fait de nombreuses victimes. Paulin Munanga nous en parle dans ce premier reportage.
D'après plusieurs experts en santé, Kalemie et Niemba sont des zones en démo épidémique depuis l'année 1977. Cela veut dire que le choléra est permanent, mais il y a des facteurs qui le déclenchent et l'aggravent. Le superviseur en charge des soins de santé primaire dans la zone de santé de Kalemie donne ces facteurs. Germain Kalunga.
D'abord, il y a la présence du lac Tanganyika et aussi la présence de la rivière Lukuga qui fait que c'est dans les eaux que les vibrions colériques sont en train de vivre. Alors, le problème de l'insuffisance de l'eau potable au niveau de la ville et ses entourages, c'est ce qui fait que la population ne consomme pas assez de l'eau potable.
Il ajoute que la zone de santé de Kalemie compte plus de 400 000 habitants, mais avec moins de 10 sites de chloration d'eau installés par la Croix-Rouge. Pour permettre à un grand nombre de la population d'avoir accès à l'eau potable, cela nécessite plus de 100 sites de chloration d'eau, déclare Germain Kalunga. Et pour maîtriser cette épidémie dans la ville de Kalemie, l'eau potable de la régie des eaux doit être disponible pour un grand nombre de la population, ajoute-t-il. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Les inspecteurs et agents de la province éducationnelle Tchopo 1 entrent en grève. Ils l'ont annoncé ce week-end à Radio Okapi. Cette décision intervient au terme de leur assemblée générale organisée mercredi dernier à Kisangani. Selon le secrétaire provincial de cette catégorie professionnelle, ils protestent contre le non-paiement de leur prime de fonction spéciale, pourtant déjà payée à leurs collègues d'autres provinces depuis l'année dernière. David Libona indique que toutes les activités sont suspendues, y compris les épreuves certificatives, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans leurs droits. Ces propos ont été recueillis par Jacques Moukonkolé.
L'injustice est orchestrée par l'inspection générale. C'est pourquoi nous dénonçons. L'État congolais avait octroyé la prime spéciale pour toutes les provinces et tous les personnels de l'État. Evra à l'inspection Aja d'Apouette comme inspecteur. Mais l'inspection générale a pris quelques provinces pour les payer. Ils ont divisé les corps. Alors cet esprit de diviser les corps, nous aussi nous décidons de ne pas aller au service, de hypothétiquer l'examen d'état de cette année jusqu'au paiement de notre prime. Nous n'allons plus rentrer au service. Aucune intimidation n'aura compte de nos revendications. Si on nous paye aujourd'hui, on rate aujourd'hui. Si on nous paye demain, on rate demain. L'examen d'État, l'inspection générale de Kinshasa, doit octroyer déjà pour venir faire passer l'examen d'État. Mais à notre niveau provincial, nous n'allons jamais jusqu'à ce que l'État reconnaisse nos droits.
Parlons route à Kinshasa, le boulevard Lumumba continue à se dégrader sans aucune intervention pour le réhabiliter. Constat amer des usagers de cette route au niveau de plusieurs arrêts des taxibus partant de l'arrêt des Bonhommes jusqu'à Bibois. Le délabrement très avancé de ce boulevard est aussi un des facteurs de plusieurs embouteillages, parfois monstres. Des détails avec Askin Zigba Tayoro.
Il n'y a plus d'aisance à se déplacer sur le boulevard Lumumba pour atteindre l'aéroport international de Ndjili, voire aller au-delà. La dégradation alarmante de la route rend difficile la circulation. Déjà au niveau de l'arrêt des Bonhommes, premier obstacle, pas facile de traverser sous le saut de moutons qui s'y trouve. L'endroit est jonché de nids de poules ainsi que les étangs artificiels qui se sont créés. Vrai calvaire pour plusieurs Quinois qui doivent y affronter des embouteillages monstres. Deuxième obstacle, les tronçons compris entre l'entrée du quartier 1 et l'entrée boulevard Kimbuta. On ne sait plus reconnaître une route asphaltée sur ces tronçons. Tout est couvert de boue mélangée avec des débris de goudron, des ordures, des bouteilles en plastique éparpillées ça et là, dégageant parfois des odeurs nauséabondes. La même situation est perceptible sous le saut de moutons du marché de la Liberté et Pascal. Troisième obstacle, ici la dense population qui emprunte les routes Mokali et ceux qui se dirigent vers Mikondo se disputent le tronçon avec le véhicule et le motard. Au-delà de l'aéroport, à la hauteur de Efobank et Bibwa, les conducteurs par manque de routes confortables ont créé un milieu du boulevard des passages interdits dans des boues.
Au Kassa Oriental, la société minière de Bakwanga, Miba, dispose encore des gisements de diamants. C'est ce qui ressort de la visite effectuée au polygone minier la semaine dernière par une délégation mixte composée des membres de l'équipe de l'unité de gestion des projets de la relance de la Miba, UGP, des experts botswanais et sud-africains. Esther Ndalafina.
La délégation mixte a visité plusieurs installations dont notamment le massif 1, le mètre cube, la laverie de Sela et l'ancienne laverie NLK. Le directeur technique de la MIBA a dressé l'état des lieux de l'entreprise minière ainsi que ses besoins en investissement. Le directeur de la compagnie botswanaise Naledi a indiqué que le massif 1 est prometteur mais il faut des investissements ciblés et un soutien technologique pour maximiser la production minière à chaque étape. Selon le représentant de l'entreprise sud-africaine de RA, il faut se mettre au travail et examiner les perspectives d'avenir du projet de relance de la MIBA. Pour Joël Kabena, coordonnatrice de l'UGP MIBA, la relance va se faire de manière structurée et transparente pour bâtir une MIBA forte pour un Congo fort. La prochaine étape consiste donc à finaliser la collecte des données avant de proposer un plan minier complet pour la relance de la MIBA. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'explosion d'une voiture piégée hier dans l'est de la Syrie a tué au moins 3 policiers et fait 2 blessés près d'un commissariat. On rapportait hier dimanche l'agence officielle Sana et une ONG. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a lui avancé le chiffre de 5 morts, dont 4 membres de la police, en plus des 2 blessés civils. D'après l'ONG, cet incident a coïncidé avec le lancement d'une opération de sécurité à Al-Mayadin.
L'invité.
Notre invité ce matin s'appelle Dr Sidi Houldta. Il est l'ancien président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Âgé de 61 ans, il est aujourd'hui pressenti pour prendre les rênes de la Banque africaine de développement. C'est un pur produit de la technocratie mauritanienne, dit-on, avec une riche carrière à cheval entre Nouakchott et les institutions internationales. Dr Sidi Houldta s'entretient avec Alain Hirong.
Docteur Sidi Houldta, bonjour. Qu'est-ce qui motive votre engagement à ce poste de président de la Banque africaine de développement?
Bonjour, merci beaucoup pour cette question. En fait, ce qui est important pour moi dans cette élection, c'est surtout de pouvoir mettre ma modeste expérience au service de l'Afrique. Ayant été du côté de l'offre et du côté de la demande avec mon expérience au cours des 10 dernières années à la tête de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, et une banque assez similaire à la BAD en termes de mission et en termes de mode d'opération, mais aussi ayant été du côté de la demande pendant pratiquement près d'une décennie dans mon propre pays. Donc je pense que j'ai eu l'occasion de voir toutes les facettes de la question du développement en Afrique et de mieux comprendre les attentes des bénéficiaires et aussi les capacités et les possibilités de ceux qui ont en charge le financement du développement dans le continent. Grâce aussi à cette expérience, j'ai eu à tisser des relations avec tous les partenaires au développement dans les 4 coins du monde, et je pense que c'est une expérience et ce sont des relations qui sont assez utiles pour servir le continent. En un mot, je suis là pour servir mon continent.
Si vous devriez résumer en quelques mots votre vision ou votre projet, que diriez-vous?
En fait, ma vision pour la Banque africaine de développement, c'est de développer l'Afrique en offrant des opportunités à la jeunesse africaine et aux femmes africaines à travers une utilisation rationnelle des ressources du continent, une optimisation du potentiel, qu'il s'agisse du capital humain ou des ressources naturelles, mais aussi un partenariat ouvert à tous les partenaires de l'Afrique dans les 4 coins du monde. Mon ambition, c'est de créer les millions d'emplois dont la jeunesse africaine a besoin pour contribuer efficacement au développement de notre continent, à la transformation structurelle des économies africaines, à la création d'une valeur ajoutée pour les produits africains sur le sol africain.
Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever aujourd'hui au niveau régional et continental?
Les défis sont nombreux, en fait, mais je pense que le défi qui, à mon sens, mérite d'avoir une attention particulière, c'est le défi de la transformation de notre potentiel démographique en un capital humain capable de contribuer efficacement à la transformation structurelle de nos économies. Donc pour moi, l'emploi des jeunes, l'encouragement de l'initiative privée, l'appui aux petites et moyennes entreprises, surtout celles dirigées par des femmes ou des jeunes, sont une priorité absolue. Bien sûr, la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine requiert le développement d'infrastructures résilientes et l'amélioration du climat des affaires et bien sûr, la mise en place de mécanismes de paiement et la levée de toutes les contraintes qui empêchent la mobilité des personnes et des biens à l'intérieur de notre continent.
Par où commenceriez-vous concrètement si vous êtes élu aux responsabilités de la Banque africaine de développement?
Il se trouve que j'ai déjà préparé un plan d'action pour les 100 premiers jours. Ce plan d'action va me permettre d'engager une large concertation avec tous les acteurs du continent, en commençant par le staff de la banque, les administrateurs de la banque, ses gouverneurs, mais aussi toutes les parties prenantes du continent, les gouvernements, les secteurs privés, les médias, la société civile, les académiciens, et aussi tous les partenaires du continent, pour que, au bout des 100 premiers jours, je puisse avoir une feuille de route pour la mise en œuvre de la vision que j'ai développée et qui s'articule autour de 4 points cardinaux. Les 4 points cardinaux sont l'augmentation sensible des ressources du financement et du développement en Afrique, la réforme de l'architecture financière africaine, la transformation de notre démographie en un dividende démographique et la construction d'infrastructures résilientes et la transformation des matières premières africaines sur le sol africain.
Quel message souhaiteriez-vous adresser aux Africains, en particulier aux jeunes et aux femmes qui vous écoutent?
C'est un message d'espoir, un message d'optimisme.
Docteur Sidi Ouldeta, je vous remercie.
C'est la fin de ce journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi et mis en onde par Pierre Diassinois. Merci de l'avoir suivi.